Canada.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Impôts, menaces terroristes, Burkini, élections présidentielles ont encore été à la une de l'actualité cette semaine. Les impôts avec une baisse d'impôts d'1 milliard pour 5 millions de ménages. C'est ce qu'a annoncé finalement le gouvernement français. C'est 2 fois moins que ce qui avait été annoncé initialement. On parlait de 2 milliards. 5 millions de ménages donc bénéficieront d'une réduction d'impôts de 20% sous condition de revenus pour l'année 2017. Les retraités aussi sont choyés. Quel que soit leur revenu, cette fois-ci, ils bénéficieront à partir de l'année prochaine d'un crédit d'impôt pour les services à la personne. Et puis du côté des entreprises, le taux d'impôt sur les sociétés serait ramené de 33 à 28%. Un problème qui risque d'arriver en revanche à partir de 2018, c'est le prélèvement de l'impôt à la source. Ça risque d'engendrer des tensions au quotidien entre les entreprises et leurs salariés, selon l'Association nationale des DRH, car les salariés vont voir leur salaire net perçu baisser. Et ça va avoir des conséquences relationnelles et managériales. Argent toujours, les péages toujours plus chers sur les autoroutes. Le nouveau plan de relance autoroutier en discussion entre les concessionnaires et l'État pourrait être financé par des hausses de péages sur les sections concernées plutôt que par un allongement de la durée des concessions. Cette semaine en France, un nouvel attentat a été déjoué. Ce sont 3 femmes radicalisées qui projetaient d'attaquer la gare de Lyon. Leur voiture pleine de bonbonnes de gaz et de bidons de gazole a été retrouvée il y a une semaine à Paris. Leur interpellation a été mouvementée, l'une des femmes attaquant un policier au couteau. Un arrêté anti-Burkini a été validé par la justice. Cette fois-ci, il était légal sur la plage de Cisco en Corse. Le tribunal administratif a estimé que, compte tenu des récents événements, la présence d'une femme en Burkini était de nature à générer des risques avérés d'atteinte à l'ordre public et donc que le maire de Cisco avait le droit d'interdire le Burkini sur sa commune. Le Burkini est une provocation, c'est l'islam radical qui veut s'imposer dans l'espace public. La déclaration est signée cette semaine non pas de Nicolas Sarkozy, mais de Manuel Valls, le Premier ministre. On a parlé aussi, et on va en parler d'ailleurs toutes les semaines certainement maintenant, de l'élection présidentielle 2017 avec ce sondage qui donne Emmanuel Macron 3e du premier tour de la présidentielle dans tous les cas de figure et il prend à tout le monde un danger donc pour tous les candidats. Sauf Marine Le Pen qui, dans tous les cas, vire en tête et se qualifie pour le second tour. Selon ce sondage TNS Offres One Point, Macron fait perdre 8 points à Juppé, 5 à Sarkozy, 4 à Bayrou. Et bien sûr, il disqualifie la gauche du second tour puisque François Hollande ne serait que 4e. Emmanuel Macron est le candidat des forces de l'argent, accuse François Bayrou. Candidat et argent, justement, Nicolas Sarkozy pourrait être renvoyé en correctionnel dans l'affaire Big Malion car le parquet de Paris estime que la responsabilité de l'ancien chef de l'État est pleinement engagée dans les soupçons de financement illégal de sa campagne électorale en 2012. Il savait qu'il avait dépassé les plafonds et il a donné des instructions en ce sens. Du côté de la gauche, François Hollande a tenu un discours de presque candidat cette semaine au cours d'une intervention sur le terrorisme. Le candidat du Parti Socialiste, quel qu'il soit, ne roulera pas en voiture française pour cette présidentielle. La voiture du candidat sera une Volkswagen, un modèle Charan. Le PS justifie par le fait que les constructeurs français n'ont pas de modèle à porte coulissante qui permettrait d'exfiltrer rapidement le candidat en cas d'incident. Citroën vient pourtant de lancer un Space Tourer, un van de 9 places à portière coulissante. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisis.
La météo de votre région sur RVE.
RVE. RVE 103.7 avec dans quelques instants eh bien, la suite de la programmation de RVE. Et la météo pour aujourd'hui, c'est un ciel qui alternera ce matin un nuage plus épars et en fin de matinée dans l'après-midi quelques belles éclaircies. Les températures, qui sont actuellement de 16 degrés, atteindront les 22 à 23.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On avait effectué notre entrée la semaine dernière à travers nos directs sur les forums des associations. Nous étions notamment sur Cernay-la-Ville, sur les Essarts-le-Roi, sur le Perret en Yvelines, sur Offargis, sur Rambouillet, sur Abbey, sur Saint-Arnoux et avec Philippe Grand sur Saint-Léger en Yvelines. Et bien c'est le retour de Tribune Sport en ce dimanche 11 septembre et ce jusqu'au 2 juillet. Donc on va comme promis, revenir sur les faits marquants au cours de ces deux premières émissions sur les événements sportifs de l'été. Naturellement, c'était quitté le 10 juillet dernier, au matin même de la finale de l'Euro de foot. On va revenir sur cette finale en compagnie de celui qui va nous accompagner pendant une bonne partie de la saison, c'est Arnaud. Salut Arnaud, ça va ?
Bonjour Philippe, ça va ?
Écoutez, quel été de sport ?
Quel été de sport, pas de vacances, on s'est pas ennuyé d'été, c'était très rempli, ouais.
Très bien, alors on parlera ensuite du Tour de France aussi avec Arnaud, et puis on aura deux témoignages, celui de José Veiga pour la victoire de l'équipe portugaise à l'Euro de foot. José, bonjour. C'est le mieux placé de tous nos intervenants foot pour parler de la victoire du Portugal, José. On a fêté ça pendant au moins plusieurs bonnes semaines au Portugal.
Oui, je pense. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, c'était. Je reviens de vacances justement du sud de Portugal. Il y avait un certain engouement, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout au long de l'émission.
Voilà, et puis on ira donc sur le Tour de France avec Olivier Bourdin qui interviendra au téléphone, qui lui était sur les premières étapes en Normandie, donc lui donnera un peu son sentiment. On prolongera donc la fête du Tour de France par un critérium cycliste, et oui, qui s'est déroulé en Ile-de-France quelques jours après l'arrivée du Tour. On vous a ramené tout plein d'interviews, c'était à Longjumeau, tout près d'ici. Et puis on va commencer, à qui oblige, par les courses hippiques, parce que c'est la rentrée des courses avec mon ami Boris. Salut Boris, ça va ? Ça a été bien cet été, ces vacances ?
Ah, super sympa.
Hein, oui. Grand été de sport. Hein.
Ah oui, c'était magnifique, on enchaînait les compétitions. Ouais. J'avoue qu'à la fin, bon, il fallait une petite pause parce que pour reprendre un peu ce
rouge. On en a eu, entre le 24 juillet et le 5 août.
Non, non, mais bon, voilà, on est tout frais et dispo. On va repartir sur une saison magnifique et pleine d'événements. Ça va être sympa.
Voilà. Donc, je l'ai dit, on parle de l'Euro et du Tour ce dimanche. Et puis la semaine prochaine, c'est nos confrères Étienne Bonamy et Bernard Delattre avec qui on montera sur les Jeux Olympiques de Rio et puis même les Jeux Paralympiques, puisqu'ils se termineront également le week-end prochain. Alors, je l'ai dit, c'est la rentrée des courses à l'hippodrome. Ça a déjà été effectué la semaine dernière. Et puis, on remet ça, Boris, 8e réunion déjà de la saison. Et avant-dernière, on sait que par tradition, les réunions de rentrée au mois de septembre fonctionnent plutôt bien. Ça marche bien et ça attire beaucoup de monde.
Elles fonctionnent bien parce qu'en fait, pour les chevaux qui vont courir le meeting d'hiver sur Vincennes, c'est l'occasion rêvée de faire des semi-rentrées. Donc, on va retrouver sur l'hippodrome cet après-midi des grandes vedettes, toute la famille Dubois, le père, le fils, Björn Gourp, qui sont des champions. Donc, c'est véritablement très intéressant. Une réunion de jeunes chevaux principalement. C'est la première fois que je vois une course sur la dernière en amateur montée. Donc, va y avoir du spectacle, c'est sympa. En plus, je pense que vu la journée qu'on a aujourd'hui, le terrain va absolument être parfait. Je pense qu'il était un petit peu sec.
Oui.
Et là, ça devrait être impeccable pour avoir une très très belle réunion sur l'hippodrome.
Et puis bon, beaucoup rentrent de vacances, ils n'ont pas trop d'argent, donc ils veulent gagner un peu d'argent.
Oui, bon, alors ça reste aléatoire parce que les courses restent difficiles et à pronostiquer et à remporter. Mais après tout, voilà quoi, il faut vraiment, quand on va aux courses, j'ai un seul conseil qui va peut-être me faire tirer une balle dans le pied aujourd'hui, mais c'est vraiment de jouer comme on le sent, avec parfois la numérologie suffit pour parfois avoir des bonnes surprises.
Ah bon ?
Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, un numéro de cheval, contrairement à ce qu'on peut penser, les chevaux sont engagés dans des courses et leur numéro n'est pas le fait du hasard. Leur numéro dépend des gains. Donc en fait, un numéro notamment le 7 par exemple, le numéro 7 sort relativement souvent parce qu'en fait, dans le classement et l'ordonnancement des courses et de la réunion, les numéros correspondent à des gains. Donc en fait c'est pas le fait du hasard. On n'est pas au casino quand on va voir les courses de chevaux. Mais enfin ça reste du sport et avec son éternel
incertitude,
voilà. Exactement.
C'est ce qui fait la beauté du sport.
Exactement.
On se plante comme nous. On voyait championne d'Europe et puis on s'est planté. On en reparlera.
On se remet en question en permanence pour trouver la bonne solution.
Voilà. Alors donc les pronos pour donc cette huitième et avant dernière réunion de la saison.
Donc vous allez le voir, il y a énormément de pronos dans mon pronostic, énormément de chevaux de l'écurie Dubois. Donc dans la première course qui sera à 14h. J'insiste, ça démarre à 14h. On sera dans le prix de la Villeneuve, en tête de cette première course, le numéro 9, Discovery Charm, monté par Étienne Dubois pour Philippe Moulin, l'entraîneur de Jean-Philippe Dubois. Donc le numéro 9 dans la première, Discovery Charm avec l'As, le 2, le 12 et le 13. Dans la deuxième course, on sera dans le prix Peugeot Nova Automobile de Rambouillet. toujours sur 2800 mètres. En tête de ce pronostic, le numéro 1, Divine Action, toujours l'écurie du bois. Jean-Philippe, cette fois-ci à la drive, pour Philippe Moulin, son entraîneur. Donc l'As dans la deuxième, Divine Action, avec le 12, le 11, le 9 et le 6. La troisième course, on sera dans le prix Poney Club de Grousset. Donc on en profite aussi pour mettre en avant nos commerçants et nos différents organismes sur la région. Donc dans la troisième course, le prix Poney Club de Grousset, toujours sur 2008. En tête de ce pronostic, le 16, Call Secret. Jean-Philippe Dubois, toujours. Donc, c'est une fois n'est pas coutume. Toujours pour Philippe Moulin. Donc, la troisième course, le 16, Call Secret. Avec le 14, le 6, le 15 et le 4. La quatrième course, ça sera le prix des Vaux-de-Cernay, toujours sur 2008. En tête du pronostic, le numéro 2, All Cash. Le driver, c'est Thierry Borderie pour Philippe Allaire. Alors Philippe Allaire, dans les jeunes chevaux, bah c'est l'entraîneur d'exception. C'est Ready Cash, c'est énormément de jeunes chevaux qui sont en train de performer. Et c'est donc véritablement très intéressant d'avoir cette qualité d'entraîneur sur l'hippodrome. Donc dans la quatrième, le prix des Vaux-de-Cernay, en tête de ce pronostic, le 2, All Cash, avec le 12, le 11, le 10 et le 6. On arrive tout doucettement à la cinquième, le prix Jean-Pascal Gorge. En tête de ce pronostic, alors là, j'ai eu mon collègue et néanmoins ami Stéphane Bourlier au téléphone la semaine dernière pour faire le point un petit peu. Il aura 5 chevaux cet après-midi, 4 de son entraînement et une monte. Et en tête de ce pronostic, j'ai mis Balade Ludoise, qui lui paraît très très bien à l'entraînement. Elle part en tête, donc dans la cinquième course, le numéro 7, Balade Ludoise, Stéphane Bourlier, l'entraîneur et le driver, avec le 4, le 18, le 12 et le 13.
C'est bien, Boris, il prépare bien les papiers, il appelle les entraîneurs.
Oh, j'ai pas de mérite bien, parce que bien. Lui, je l'ai à peu près une fois par semaine au
4,
téléphone.
Donc 7, 4, 18.
Donc dans
12,
la 5ème, ouais, le prix Jean-Paul Gorge, en tête du pronostic, le 7, Balade Ludoise, avec le 4, le 18, le 12 et le 13. Dans la 6ème, le prix de la Ligue contre la cardiomyopathie, on en profite aussi pour souligner les belles associations, toujours bénévoles, et on encourage vivement les gens à venir, car en venant sur l'hippodrome, avec la maudite somme de l'entrée, vous participez à toutes ces associations. En tête donc de la 6ème, le prix de la Ligue contre la cardiomyopathie. Le numéro 8, Vicky Dumirel, monté par Björn Gourp, l'entraîneur c'est Lindquist. Björn Gourp, pour la petite histoire, c'est Jean-Michel Bazir de la Suède. C'est vraiment un honneur d'avoir ce type de jockey sur l'hippodrome de Rambouillet. Donc en tête de la 6ème, le 8, Vicky Dumirel, avec le 14, le 10, l'As et le 11. On arrive à la 7ème, le prix d'Auvargis. En tête de ce pronostic, le numéro 11, début de soirée, avec sera drivé par Pierre Pellerot. Pierre Pellerot, c'est quelqu'un de la Sarthe. Avec ensuite le 2, le 10, le 9 et le 7. Donc la 7ème, le prix d'Auphargis. En tête du pronostic, le 11, début de soirée, avec le 2, le 10, le 9 et le 7. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on terminera, une fois n'est pas coutume, j'en ai pas dans ma carrière de pronostiqueur rencontré souvent, un prix pour amateur au monté, donc pour la petite histoire, le monté, et pour résumer, c'est sans le sulky, et le jockey sur le cheval doit respecter un poids pour pouvoir monter de cheval. Donc dans la dernière épreuve, la 8ème, le prix d'Épernon, en tête de ce pronostic, le numéro 1, Very Match, c'est Christelle Bayard qui montera pour son père Philippe ce cheval-là, avec le 7, le 4, le 3, j'en mets que 3 derrière, dans la mesure où il n'y a que 8 partants. Donc dans la dernière, le prix d'Épernon, l'As, Very Match, avec le 7, le 4 et le 3. Voilà, on devrait terminer aux alentours de 18h30 l'avant-dernière réunion de l'hippodrome de Rambouillet cette année.
Voilà, et puis la dernière, ça sera le dimanche 2 octobre, ça sera le jour de Tribune Foot, donc Boris pourra nous donner ses pronos, puis je crois qu'il y aura le prix de l'Arc de Triomphe, hein, le championnat du monde des galopeurs.
Et effectivement, et toujours le premier week-end d'octobre, on a avec cette année deux chevaux français qui seront favoris, et les deux dépendent de l'entraînement de Monsieur Rouget, un qui s'appelle Almazanor, qui a encore gagné hier une course, un groupe 1 de la meilleure façon, et le second, la Cressonnière, qui sort du Pré de Diane et qui ramasse tout en France pour les courses de jeunes chevaux. Il va y avoir du spectacle, et véritablement du spectacle, avec un entraîneur français qui dépasse son illustre père, qui était déjà il y a 25 ans le meilleur des entraîneurs en France des chevaux de plat. Donc il va y avoir du spectacle, du chapeau et de la grande monte pour ce premier week-end d'octobre.
Alors très brièvement, il n'y aura pas Boris à l'hippodrome de Rambouillet cet après-midi, parce que Boris il part sur Laval.
Ouais, je suis un peu frustré parce que...
Terre de foot et de sport équipe.
Et oui, on choisit pas forcément les engagements, donc mon cheval Ara Nuit va courir à Laval. C'est un peu dommage parce que mon associé court sur Rambouillet avec 5 montes, donc on se croise, c'est comme ça. Et voilà, donc je vais partir à l'issue de l'émission et puis on va essayer
les
de...
Les portables vont crépiter cet après-midi. Hein.
Les portables vont crépiter, mais bon, pour voilà, s'il s'appelle Aranui, il court à Laval et juste, on y va avec une toute petite chance, on va le reférer, puisque globalement, il a énormément performé ces derniers mois, puisqu'il a, il a gagné 4 fois en 4 mois. Donc on va, on monte de catégorie, on va rester très prudent, on va garder les fers, on va le courir à la corde et on envisage une 5-6e place. Donc pour ceux qui envisageraient de le jouer, je le déconseille de le jouer.
Merci Boris, en tout cas.
Merci
et puis,
Philippe.
Bah, rendez-vous dans 3 semaines, hein, dans Tribune Foot, hein, puisqu'on aura chaque premier dimanche du mois Tribune Foot, où on commentera toute l'actu foot. Alors le foot, on va quand même donc en reparler, puisqu'on s'était quitté, je vous l'avais dit, le 10 juillet dernier, au matin même de la finale. On était tous euphoriques, tous emballés. Hein. Moi le premier, on voyait toute l'équipe de France, enfin championne d'Europe. Et puis bah, les pronostics ont été déjoués. Arnaud, c'est le Portugal qui s'est imposé, qui a remporté le premier gros succès international donc de son histoire, en s'imposant 1-0 après prolongation, but de Eder. On a fêté ça donc tout l'été au Portugal, au cours, c'est vrai, d'une finale qui ne laissera pas un énorme souvenir, à l'image de cet Euro de foot au niveau du jeu, mais c'est l'équipe la plus pragmatique qui s'est imposée sur cet Euro français.
Ouais, déjà pour commencer, effectivement, nous étions trop confiants dans la France entière. Tout le monde se voyait déjà vainqueur de l'Euro le soir de la victoire contre l'Allemagne.
Sauf Edouard Doudou, qui dans une émission nous avait dit « Moi, je suis le Portugal ». On s'était un peu moqué de lui, il ne s'était pas trompé, chapeau à lui. Voilà.
Le problème, c'est que, alors déjà, avant de commencer, je préfère mettre les choses au point, on en a parlé hors antenne. Oui, l'équipe de France n'a pas été efficace. Non, l'équipe de France ne méritait pas de gagner. L'équipe de France, dans le jeu, était au-dessus, mais derrière, l'efficacité, c'était aucune. Les hommes de Didier Deschamps, c'est bien beau de faire tourner la balle. Moi, ça m'a fait un petit peu penser au PSG à Manchester. Donc oui, il y a eu du jeu, mais derrière, offensivement, c'était éteint. Mais après, qu'on se le dise, le Portugal méritait encore moins sa victoire. C'est zéro occasion. Ça se joue sur un coup du sort... En prolongation, il y a une petite main d'Eder non sifflée qui est donnée pour Koscielny avec un carton jaune 3 minutes avant. Derrière, c'est un contre. Eder qui efface, je crois, Koscielny, justement. Il envoie une frappe dans le soupirail. Donc, le problème, c'est qu'un match de foot, ça se joue à peu. Une grande compétition également. À la fin, c'est le Portugal qui va au paradis. Tant mieux pour eux. Mais derrière, au niveau du mérite, ça m'a fait un petit peu penser à l'équipe de Grèce il y a maintenant 12 ans qui gagne ses 3 matchs de phase finale 1-0, 1-0, 1-0. Le Portugal arrive à être champion d'Europe en gagnant un seul match dans les 90 minutes pendant tout son Euro. Donc qu'on se le dise, pour moi, oui, le Portugal est un des pires champions de l'histoire de l'Euro. Et puis, voilà, l'histoire est comme ça, on en verra d'autres. Et avec un petit peu de chance, les Bleus seront 3 points dans 2 ans en Russie.
Oui, alors c'est vrai que c'était l'équipe la plus pragmatique, hein, qui s'est imposée, on l'a dit. Une équipe qui, comme effectivement la Grèce en 2004, a fait déjouer tous ses adversaires. Alors l'équipe de France a peut-être laissé un peu de force suite hein, au niveau de l'événement, hein, suite à sa victoire contre l'Allemagne en demi-finale. C'est vrai qu'il a manqué ce petit brin de réussite, hein, ce poteau de Gignac, si à quelques centimètres près, il va au fond, bah, c'est une statue qu'on fait donc à Gignac. Il y a aussi la tête de Griezmann, et puis aussi la sortie de Ronaldo a un peu quand même compliqué la tâche pour l'équipe de France. Hein. Ça a permis aux Portugais de jouer encore plus derrière.
Oui, je pense que si Ronaldo n'était pas sorti, je pense que la France l'aurait emporté. Mais bon, c'est un coup du sort.
On ne sait pas, mais je pense quand même, parce que ça n'a pas facilité. Quoi.
Ça n'a pas facilité, mais les joueurs portugais se sont transcendés. Et bon, je sens que Arnaud est un peu amer et on le serait un moins. Mais faut quand même donner un peu de mérite à la défense portugaise et surtout au gardien quand même. Il faut souligner
c'est
ça
vrai,
que
c'est
si le gardien a fait quelques.
C'est vrai.
Disons 7 arrêts décisifs.
Il est vrai qu'il pas de
donc, je sens qu'il est amer, mais bon, Arnaud, mais ça fait partie du jeu. La France a déjà gagné avec de la chance. Et
là, faut pas de la chance, c'est de la réussite. C'est pas tout à fait pareil. La chance, c'est sur un match.
Oui,
sur une compétition, c'est plus de la chance.
Oui,
pour d'accord. Sur une compétition,
oui,
c'est plus de la chance. Sur un match, oui, mais plus sur une compétition.
C'est vrai, mais disons que, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, l'équipe du Portugal était plus pragmatique.
Oui, c'est la plus
et
pragmatique.
De toute façon,
elle a fait des joueurs
l'entraîneur
tout le monde
l'avait annoncé dès le départ. D'habitude, il joue bien. Hein. On se rappelle de 2006 et perdre contre la France en jouant bien. Et donc là, il avait annoncé la couleur. Il avait dit on va produire du mauvais jeu, mais on va gagner. On va aller jusqu'en finale et on va gagner. Bon. Et il a fait ce qu'il a dit.
Oui. C'est pas la première fois.
S'ils avaient joué, oui c'est vrai. C'est pas la première fois
qu'une équipe gagne en n'étant pas la perspective.
Arnaud vient de rappeler la Grèce en 2004 au Portugal.
Oui, il y en a eu d'autres. Hein.
Il méritait pas de gagner la Grèce.
L'équipe de France en 98, hein, ça n'a pas toujours été facile.
C'est vrai.
Le jeu du Portugal
en 82.
Mais disons que c'est le copier-coller de Chelsea il y a 4 ans qui gagne la Ligue des Champions, qui sort le Barça en demi-finale, qui bat le Bayern en finale au tir au but, je crois. Et c'est une défense en bloc, c'est un mur devant le gardien, et derrière, offensivement, il n'y a plus rien, c'est éteint.
C'est vrai. Bon, c'est une belle saison quand même pour Ronaldo et puis Pépé, hein. Ils font le doublé, Ligue des Champions, et puis.
Oui, Pépé, quand même, bon, c'est pas mon joueur préféré.
C'est pas un temps,
sur ce tournoi, je pense qu'il a été énorme, tout simplement énorme. Bon, après, il a son caractère, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de fautes avant, mais je pense que sur ce tournoi-là, il est quand même à souligner qu'il a fait un très très bon tournoi.
Alors, on avait dit qu'il fallait pas aller à l'hippodrome de Rambouillet, ça portait malheur. Bah, on n'y est pas allé, et puis ça portait malheur aussi. Donc, vous voyez, ça n'a pas changé. C'est vrai que bon, le Portugal, c'est son premier gros trophée. Hein. Ils avaient échoué, on se rappelle, en 84 et en 2000 au niveau de l'Euro devant l'équipe de France. En 2006 aussi, en demi-finale du Mondial. Et puis, on se rappelle aussi en 2012, en demi-finale contre l'Espagne. Et cette finale perdue en 2004, donc contre la Grèce. Là, c'est le premier gros trophée. Donc, on a fêté ça, José.
C'est vrai. Là, je reviens de vacances et il y a encore dans le sud du Portugal. Pour vous dire, il y a un magasin de sport qui s'appelle Força Portugal où ils vendent des maillots de toutes les équipes et notamment de la sélection. Et disons que je discutais avec le gars, il commandait une cinquantaine de maillots. Dans le quart d'heure qui suivait, il n'y avait plus de maillots, surtout le maillot vert extérieur. Bon, alors après, est-ce que c'est pour le maillot du Portugal ou pour la couleur du maillot qui plaisait? Mais faut noter qu'il y avait beaucoup d'Anglais et les Anglais portaient tous le maillot portugais. Il y avait aussi beaucoup de Français, contrairement à ce que Arnaud peut penser, et pas seulement des fils d'immigrés, des vrais Français, des Français de souche. Et donc c'est une fête. Moi j'adore l'équipe de France aussi.
Heureusement que
j'étais un peu partagé, mais disons que
on avait la gueule de bois le lendemain. Justement, Arnaud, on l'a dit, l'équipe de France s'est battue en finale, échoue en finale. Elle avait été en quart de finale, donc en faisant une belle Coupe du Monde il y a 2 ans, elle était à son niveau. Donc maintenant, il va falloir aller plus loin, plus haut. Pourquoi pas le Mondial 2018?
Ah, mais de toute façon, pour les hommes de Didier Deschamps, l'objectif est clair, c'est être champion du monde. Aujourd'hui, ils ont les armes pour être champion du monde, du moins à partir du moment où on bat l'Allemagne pour la première fois depuis
58.
Depuis 58, oui, effectivement. Ils ont les armes pour être champion du monde. Le Brésil, aujourd'hui, ils ont une équipe de jeunes, mais je pense que c'est trop tôt. L'Argentine, on a un Lionel Messi qui prend sa retraite internationale pour revenir 3 semaines plus tard. L'équipe de France a les armes pour être champion du monde. Après, ça sera eux de faire le travail. On a vu en Biélorussie que c'était poussif contre les équipes qui jouent en bloc. C'est ce qu'on avait vu face à la Roumanie et face à l'Albanie à l'Euro.
Ça va peut-être être un peu plus difficile qu'on ne le pensait.
Mais je pense quand même que.
On en reparlera dans
d'autres émissions. Mais encore une fois, on sort d'une finale de l'Euro. Ouais. En France, on se voit toujours
Mais je pense quand même que Didier Deschamps a un super groupe avec jeunes et qu'il est en train de reconstruire. Disons qu'il est en phase de reconstruction. Bon, c'est bien avancé. Mais j'adore cette équipe-là, 2015-2016, par rapport à celle de 2010.
Oui, au niveau état d'esprit. Justement, on revient de très loin.
On sent quand même en France qu'il y a un certain engouement pour cette équipe qui n'avait pas il y a 6-7 ans en arrière.
Alors, on va quand même rappeler, Arnaud, que Griezmann a quand même été élu meilleur joueur et meilleur buteur.
Griezmann perd 3 trophées face à Ronaldo. C'est une Ligue des Champions. Ouais, c'est un Euro. C'est un trophée de meilleur joueur européen en une saison. C'est vrai que pour lui.
Je vous rappelle quand même que la maman de Griezmann est portugaise.
Ah, oui, d'accord. Bah oui, comme quoi. Et puis que bon, c'est vrai que cet Euro ne restera pas un grand Euro sur le plan du jeu. Par contre, énorme succès populaire.
Énorme succès populaire en France, après, au niveau du jeu, on s'est ennuyé, qu'on se le dise.
Bah, le vainqueur est à la hauteur de de 7 euros, c'est ça.
À part peut-être la demi-finale France-Allemagne, qui était quand même un bon match, c'est vrai. Quand vous voyez Portugal-Croatie, c'était un long match, bon, on va pas revenir là-dessus, on le sait, c'est peut-être pas un des pires, mais bon, il fait partie des pires tournois qu'on a vu ces dernières années.
Bon, je voudrais connaître le sentiment de Boris, qui parle aussi souvent ballon rond avec nous. Donc, sur 7 euros, d'une façon générale, sur cette finale, c'est vrai qu'on s'est tous plantés, on était tous euphoriques, et puis on pensait qu'on allait aller faire la fête, puis finalement, ce sont nos amis portugais qui ont fait la fête.
Faut toujours rester mesuré, un match reste un match. Je crois que on peut dire ce qu'on veut, le Portugal est champion d'Europe.
Pour 4 ans, finalement encore 2 ans champion du monde.
Le football moderne, il faut être pragmatique. La France n'a pas su l'être.
Bien sûr.
Sur la compétition, je pense que la France méritait de la gagner.
Autant que le Portugal et autant que d'autres. Pas une équipe plus qu'une autre.
Ça nous a souri par le passé, ça nous dessert aujourd'hui. Quoi dire d'autre? Je pense que sur la globalité, du Portugal, qui a quand même un beau pays, qui a eu un ballon d'or qui s'appelait Ronaldo et Eusébio et autres, sur la depuis que le football existe, le Portugal mérite quand même un jour ou l'autre de gagner une compétition. Voilà. Sur cette compétition, voilà, sur la finale, ils ont été pragmatiques, ils ont su mettre le but au bon moment. C'est vrai que la sortie de Ronaldo a joué certainement beaucoup psychologiquement pour les joueurs qui sont restés. Il y a eu aussi un moment de flottement derrière pour l'équipe de France. On a cru que la terre s'arrêtait. Les Français, je le dis honnêtement, auraient dû en profiter. On n'a pas su être des tueurs au moment où il fallait. On a perdu la finale. Bon, par contre, ce que j'aime, je préfère avoir perdu cette finale de l'Euro. Oui. Parce que je pense que l'état si on l'avait d'esprit. Gagné, ouais. Dans l'état d'esprit de la qualification de la Coupe du Monde, on y allait finalement comme un favori. Ouais. Et je pense que là
c'est un peu le cas aussi, hein, dans le groupe.
Ouais, mais je pense que là, ils ont eu le goût de la défaite en finale et ils ont certainement pas envie de le retrouver. Donc je pense que une bonne claque 2 ans avant la Coupe du Monde, c'est une vraie claque, ça va remettre tout le monde d'équerre. Et je pense que c'est un mal pour un grand bien. Et je pense aussi que les débuts poussifs qu'on a vus cette semaine, ça va rapidement se régler parce qu'on a des joueurs de talent et on devrait finir en tête de cette poule. Et dernière chose, c'est mon regret, j'aurais voulu voir Varane à l'Euro parce que j'ai trouvé que c'était un vrai patron contre la Biélorussie. Ça reste la Biélorussie, mais j'ai trouvé que le gars, franchement, et je trouve que le côté Rami et autres nous a vraiment desservi. On dirait qu'en finale, ça aurait peut-être pas pesé grand-chose. Mais voilà, Varane, je pense, c'est le vrai capitaine de l'équipe de France.
Très brièvement, pour finir donc sur le chapitre de l'Euro.
Répondre à deux questions par rapport à ce que disait Boris. Aujourd'hui, le Portugal est champion d'Europe. Le Portugal va devoir se qualifier pour la Coupe du Monde. Et amis portugais, attention à vous, déjà il y a eu un premier match en Suisse, c'est une véritable rousse, donc certes Ronaldo n'était pas sur le terrain, c'est 2-0 dans un non-match, donc que les portugais fassent attention parce que derrière ça peut se retrouver en barrage. Et deuxième chose dont je voulais répondre, c'était par rapport à l'esprit populaire. Oui, on a retrouvé un esprit populaire en France, les gens supportent l'équipe de France, ils ont retrouvé l'amour du maillot, donc espérons que tout ça serve pour aller en Russie sereinement.
Très bien, merci. Allez, la pub, la pause musicale et ensuite on enchaîne sur le Tour de France.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohar, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohar, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohar, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15. Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
La Cim Verte et la Gage vous proposent un travail soigné et en toute sécurité. Vous souhaitez changer l'image et la luminosité de votre jardin? La Cim Verte vous conseillera sur l'élagage et les soins à apporter à vos arbres. Comment les tailler? Quelles sont les périodes à respecter selon les essences? Et répondra ainsi à toutes vos questions. La Cim Verte, votre professionnel de l'élagage. 01 30 46 23 36 ou www.lacimverte.com.
Sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur. Rimbaud, avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges, sur le papier peint, je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer, ces idées loufoques, depuis qu'elle est en cloque. Elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises. Elle a des envies balèzes. Moi, je suis aux petits soins, je me défonce en 8 pour qu'elle manque de rien. Ma petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté tout seul dans mon froc depuis qu'elle est en cloque. Le soir, elle tricote en buvant de la verveine. Moi, je démêle ses pelotes de laine. Elle use les miroirs à se regarder dedans, à se trouver bizarre tout le temps. Je lui dis qu'elle est belle comme un fruit trop mûr. Elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qui est. Moi aussi, je débloque depuis qu'elle est en cloque. Faut que je retire mes grolles quand je rentre dans la chambre. Petit rossignol qu'elle couvre, c'est que son petit bonhomme qui arrive en décembre, elle le protège comme une louve. Même le chat pépère, elle en dit du mal, sous prétexte qu'il perd ses poils. Elle veut plus le voir traîner autour du paddock depuis qu'elle est en cloque. Promène mes mains l'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing. Ça bouge, je lui dis t'es un jardin, une fleur, un ruisseau. Alors elle devient toute rouge. Parfois ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin, quand je regarde son ventre et le mien, c'est que même si je devenais pédé comme un phoque, moi je serais jamais en cloque.
Et le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, donc il y a eu l'Euro de foot, il y a eu le Tour de France aussi, hein, dont RVE est une radio naturellement partenaire. Alors, c'est vrai que Arnaud, on a eu un peu de mal à rentrer dans ce Tour de France, d'abord parce que la première semaine du Tour, elle est tombée en même temps que la dernière semaine de cet Euro, où on est tous derrière l'équipe de France. Et puis après, quand il y a eu médiatiquement eh bien, le Tour qui a pris le dessus, il y a eu malheureusement les attentats de Nice, hein, qui ont un peu fait relativiser ce Tour de France 2016. Et puis, la victoire de Christopher Froome, j'allais dire, sans trop de problème, même sans trop de difficultés. Il n'a jamais été inquiété.
Il prend le maillot à la 10e étape, si je ne dis pas de bêtises. Pendant 3 semaines, on s'ennuie et a eu 2 satisfactions. C'est de voir Christopher Froome en course à pied dans le Mont Ventoux.
Oui.
Et la deuxième, c'est de retrouver un Français par la plus grande des surprises sur le podium. On attendait Thibaut Pinot. C'est finalement Romain Bardet qui va prendre une très belle deuxième place. Encourageant pour l'avenir, on a commencé à entendre parler cette semaine que Pinot et Bardet envisageaient d'arrêter le Tour de France, de se concentrer et sur le Tour d'Italie et sur la Vuelta.
C'est impossible.
C'est impossible médiatiquement, je suis bien d'accord.
C'est leur valeur marchande.
Aujourd'hui, déjà, quand on voit la Vuelta qui va se terminer aujourd'hui avec une victoire de Nairo Quintana, ça a été 3 semaines de folie, 3 semaines d'attaque en contre-la-montre hier qui a tout relancé. Avant-hier. Christopher Froome qui revient à 1.21 de Quintana, ça a essayé d'attaquer, donc Quintana était bien au-dessus face à un Christopher Froome fatigué. Mais aujourd'hui, de voir et le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie bien plus attractifs que le Tour de France, ça fait peur pour la beauté du Tour. Et aujourd'hui, toutes les grosses équipes se concentrent sur ce Tour de France parce que c'est la course à gagner. Mais après, derrière, pour le public, ça en rend une course totalement inintéressante.
Alors, c'est vrai que, bon, Froome n'a jamais été inquiété. Ce qu'on peut regretter aussi, c'est que toutes les étapes de montagne, hein, qui étaient des étapes qu'on nous disait spectaculaires, elles ont tous été gagnées, j'allais dire, par des baroudeurs, hein, par des coureurs qui étaient issus de rescapés qui s'étaient développés dès le début. La seule grosse et belle étape de montagne qu'on ait eue, ça a été effectivement l'étape de Saint-Gervais gagnée par Romain Bardet, la seule et unique étape, victoire française, hein, sur ce Tour 2016. Et puis il y a eu quand même un Froome qui cette année a couru un peu différemment. C'est vrai que on l'a vu gagner par exemple l'étape de Superbanière en faisant une descente à fond. On l'a vu s'immiscer dans l'étape de plat, donc qui est emmené sur Montpellier avec Peter Sagan, hein, et déjouer tous les pronostics. On a eu un Froome un peu différent, un peu plus de panache que le Froome qui avait gagné les premiers tours en 2013 et 2015 en assommant la course dès le début et ensuite en contrôlant la situation. Mais c'est vrai que bon, Pinot a abandonné tôt, Contador a abandonné tôt, Quintana n'a pas attaqué. C'est vrai qu'on est vraiment resté sur notre fin.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un Christopher Froome qui est bien au-dessus. Il est au-dessus de tout le monde. On ne va pas rentrer dans le débat. Il a une équipe dans toutes les étapes de montagne. Ouais. C'est le train de la Sky. Quand on arrive à 5-6 km de l'arrivée, il reste Christopher Froome et 4 Sky. Ouais. Quintana était tout seul, Mollema était tout seul, Bardet était tout seul. Donc aujourd'hui, c'est se battre contre une équipe totale. Ils sont bien plus efficaces. Il y a un programme dans cette équipe qui, clairement, à mon avis, est physiquement... Ça doit en imposer pour arriver le jour J près. C'est ce qu'on voit chaque année. Et pour le moment, la Sky est bien au-dessus. Il n'y a rien à dire.
Ouais, et Bardet, donc, on l'a dit, unique vainqueur français cette année. Il était temps, un peu comme Pierre Roland en 2011. Il a gagné deux jours avant l'arrivée, la seule unique victoire d'État français sur ce tour. José, au Portugal, on suit le Tour de France. Bon, il y a Rui Costa, c'est tout ce qui reste. Hein.
Voilà. Et puis, il n'a pas été formidable cette année. Je me rappelle des années Joachim Agostino, il y a 30 ou 40 ans,
c'est vieux ça. Deux fois troisième du tour quand même. Voilà. Hein. On a eu quand même plein de drapeaux portugais sur la route du tour quand même, faut le dire.
Oui, bon, mais bon, voilà. Les Portugais, c'est pas un grand pays, hein. Il y a 10-11 millions d'habitants. Ça n'a rien au niveau sport, ça n'a rien de comparable avec la France ou un autre pays, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Et donc, dès qu'il y a un champion, soit en cycliste ou en foot, ils essayent d'avoir un certain engouement. Mais je pense quand même que le Tour de France, il y a quand même un peu moins d'engouement, les étapes de montagne.
Donc, je crois que la fête populaire, elle est aussi forte.
Elle est aussi forte.
Le problème, c'est que voilà.
Disons que les coureurs.
C'est toujours le problème. On a connu ça avec Armstrong, même c'est si ça. Armstrong a perdu c'est les vrai. Titres. On a connu ça avec Indurain.
Je trouve qu'il y avait plus de batailles dans les étapes de montagne.
Du temps d'Eddy Merckx, oui. Voilà, mais sinon, le reste, on ne s'en rappelle plus trop. Mais c'était des tours à peu près pareils.
Pour tout vous dire, actuellement, à Eurosport, j'ai des collègues qui sont anglais, qui sont commentateurs pour les infos Eurosport. Et l'autre jour, à la fin du Tour de France, je me suis retrouvé à leur poser la question: qu'est-ce que vous pensez de Christopher Froome? La réponse a été rapide. J'ai l'impression de voir Lance Armstrong et l'US Postal.
Oui, non, mais c'est vrai. Il est formaté. Au moins, les Anglais qui n'ont pas fait un bel Euro de foot se sont rachetés avec Froome, qui rentre quand même dans un club très fermé, hein, des coureurs à trois victoires. Il y a eu Tiss, il y a eu Bobet, il y a eu Lemon, et maintenant, donc, Christopher Froome. Donc, je vais vous rappeler le classement de ce tour.
Bernard Hinault aussi.
Hinault, non, 5 fois Hinault. Pas 3 fois, Hinault 5 fois. Hinault 5 fois. Là, c'est celles qui ont gagné 3 fois le tour. Voilà. Donc, Froome, s'est imposé devant Bardet, 2e, 3e, Quintana, 4e, Yates, 5e, Porte, 6e, Valverde, 7e, Rodriguez, 8e, Medjez, 9e, Martin et 10e, Krojegaard. Un autre, quand même, héros de ce tour, c'est Sagan, Peter Sagan, maillot vert, quand même, qui a gagné 3 étapes sur le tour. Le maillot blanc, c'est Yates. Le maillot à poids, c'est Maika. Et l'équipe, de classement par équipe, ce sont les Movistar. Et les super combatifs, c'est Nathan Sagan. Et puis autre héros, c'est Cavendish qui avait 4 étapes sur le tour et qui donc est devenu le coureur le plus titré sur le tour après Eddy Merckx. Il a justement détrôné Bernard Hinault.
Il gagne plusieurs étapes et pour revenir sur les Français, je vais faire un parallèle avec le tennis. Actuellement, on a l'US Open. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on a une très belle génération française comme on avait une très belle génération française en tennis il y a 10 ans. C'était de très bons joueurs. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'ils n'ont jamais rien gagné. Et j'ai peur que dans les années à venir, on se retrouve avec des Bardet, des Pinot qui enchaînent les podiums, sans aller chercher
On est parti pour. Je pense qu'on a encore un petit bout de temps avant de voir un Français gagner le Tour, comme on a un petit bout de temps avant de voir un Français gagner
Roland Garros. C'est pour ça que voir un Français sur, admettons, la Vuelta ou le Tour d'Italie, je pense que ça peut rendre les choses intéressantes s'il se concentre sur ce Tour d'Espagne ou ce Tour d'Italie et en venant sur le Tour de France pour l'image, pour gagner une ou deux étapes et pourquoi pas un maillot à poids, mais sans abandonnant le classement général.
Ouais. C'est une façon de voir, puisque c'est vrai que sur un Tour d'Italie ou un Tour d'Espagne, tous les meilleurs sont quand même pas là. Enfin bon, c'est un autre débat. Alors, pour la première fois, je voulais faire. Donc, on n'a pas pu aller sur le Tour 2015. Des petites raisons personnelles. Je voulais avoir une petite pensée pour mon papa qui est parti pendant ce Tour 2016. Par contre, on a quand même retrouvé ses coureurs quelques jours après, donc à Longjumeau, à l'occasion du premier critérium cycliste d'après Tour, organisé en Ile-de-France depuis très longtemps. Alors, c'était un critérium, ne l'oublions pas quand même, qui était organisé derrière Dernier. Il y avait 2 km à faire 50 fois en plein centre-ville de Longjumeau. Et puis, on avait quand même dans les tribunes des personnalités invitées comme Raymond Poulidor, Bernard Thévenet, Éric Boyer, Daniel Potrat et Daniel Mangias qui était le speaker de ce critérium de Longjumeau. La victoire, elle est revenue à un coureur qui avait fait le Tour de France, qui était un spécialiste, Samuel Dumoulin, qui a donc réglé au sprint Sylvain Chavanel. Alors on va prolonger le Tour de France, on va vous ramener quelques petites interviews et on va commencer avec celui qui a signé le plus d'autographes au cours de cette soirée de critérium. C'était le 29 juillet. C'est naturellement Sylvain Chavanel de l'équipe Direct Énergie. Et vous allez voir, Sylvain nous a dit qu'il allait continuer encore sur le Tour 2017.
Avec Sylvain Chavanel. Sylvain, ravi d'être ici à Spectarium de Longjumeau.
Bah surtout que c'est la première année, donc ça va être une découverte aussi pour ma part. Après, c'est toujours plaisant de venir sur les critériums après tour, parce que c'est d'être plus proche de nos supporters. C'est l'occasion de pouvoir discuter, d'échanger avec les athlètes, donc c'est très, très sympa. Oui. Parce que sur les courses principales, c'est beaucoup, on est beaucoup dans les bus maintenant, donc c'est nos vestiaires. Et c'est vrai qu'on sort toujours à la dernière minute pour aller à la ligne de départ. C'est pas le cas sur les critériums, donc c'est pour ça que c'est plus festif. Il y a moins de pression aussi. C'est très plaisant, c'est beaucoup de spectacles, mais il ne faut pas oublier que ce soir c'est derrière dernier, donc c'est un critérium qui sera très spectaculaire par le bruit et puis par tous ces derniers et tous ces coureurs.
Est-ce que vous avez conscience que vous êtes des véritables icônes au sortir du tour? Tous ces gens-là vous admirent.
Oui, ben voilà, on sort de 3 semaines quand même où on a partagé des choses avec le public et c'est vrai que c'est l'occasion de continuer cette fête par ces critériums, donc c'est une continuité.
Vous allez en faire d'autres après dans les semaines qui suivent?
En fait là je vais à l'étranger, je vais aller en Belgique. Comme je suis quelqu'un qui a couru 5 ans sur les territoires belges et je suis très apprécié là-bas, donc c'est l'occasion aussi de me rapprocher de mes supporters belges.
Alors un peu le Tour de France, est-ce qu'il y a une petite mort? On dit toujours que les 48 heures qui suivent, ça fait une petite mort.
Non, ça fait du bien. Surtout que moi personnellement j'ai besoin d'être d'avoir mon indépendance, donc c'est très plaisant aussi de pouvoir se retrouver en famille parce que on a vécu dans un moule avec beaucoup de monde pendant 3 semaines et c'est vrai qu'à un moment donné vous passez des 3 semaines de tour et vous rentrez à la maison, c'est le calme plat, donc ça fait du bien aussi.
La suite de la saison après c'est quoi? Il y avait d'autres objectifs, des belles courses en fin de saison?
Oui, j'ai surtout le mois d'août où j'aurai des courses. Le mois de septembre sera un peu plus creux parce que je vais plus me préparer pour la poursuite. Il y aura les championnats de France à Bordeaux et les championnats d'Europe que j'ai envie vraiment de participer qui vont se dérouler à 50 ans en Yvelines. C'est une discipline que j'ai découvert l'année dernière après 17 ans d'absence, donc j'ai envie de re-bien faire cette année. Le mois d'août sera fixé entre l'Arctic Race Norway et Poitou-Charentes-Plouay.
Bon, vous allez continuer, on verra sur le tour l'an prochain.
Normalement, j'ai vu le plaisir que j'ai pris cette année, je me dois être au départ du 17e, donc c'était pas chose gagnée avant mon 16e tour, mais comme j'ai pas galéré sur ce tour, je me vois bien au départ l'année prochaine.
Très bien, merci Sylvain. Ouais. Merci. Voilà, merci à Sylvain Chavanel. Et dans cette salve d'interview hein, où il ne manque que Rémi Di Gregorio, eh bien, on va maintenant écouter Maxime Bouet de l'équipe Ethics Quick Step. Maxime Bouet. Avec Maxime Bouet. Alors Maxime, comment se présente ce premier critérium de Longjumeau?
Très très bien. Déjà l'avant critérium, il y a énormément de monde. L'organisation pour l'instant est vraiment parfaite. J'ai rarement, presque même si je peux dire, jamais vu une organisation aussi bien. Il y a du monde. Tout ce qui est un petit peu village comment départ si on peut dire. La réception, tous les stands qu'il y a, c'est une belle fête du vélo. Et ça peut que de mieux en mieux, je pense.
Oui. Et vous aimez ce contact avec le public hein?
Oui, c'est quand même un sport populaire. Le vélo, c'est un sport populaire et justement qui dénote des autres sports, au foot où ces athlètes sont un peu plus dans l'ombre, enfin se cachent un peu plus. Nous, c'est vrai que c'est à la sortie du tour, certains sont vraiment très médiatiques et on peut les approcher, les toucher, les embrasser, les prendre en photo, être vraiment au contact des coureurs. Il y a une proximité dans le cyclisme, je pense qu'on ne retrouve pas dans les sports comme le foot. Et quand c'est un sport populaire, il faut être populaire. Et donc, c'est très très bien que les pros soient ici vers le public.
Et vous allez courir derrière Garni, c'est particulier quand même?
Ouais, c'est particulier. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, j'en avais fait, mais sur piste, sur vélodrome, jamais sur route. Je m'entraîne énormément derrière le scooter de mon beau-père. Pour moi, c'est la meilleure solution d'entraînement pour un professionnel ou un très bon amateur pour progresser. C'est l'entraînement derrière moto ou derrière dernier. Donc pour moi ce soir c'est une très belle course et c'est aussi un objectif de progresser pour les courses qui vont arriver derrière.
Oui, alors justement vous en êtes où sur votre carrière après ce mois de juillet où malheureusement vous n'étiez pas sur le tour?
C'est vrai que j'étais pas sur le tour, j'ai un peu déçu parce que le tour passait dans ma région au col du Grand Colombier et de regarder le tour à la télé c'est toujours quand t'es français c'est toujours un petit pincement au cœur. Maintenant il faut prendre le bon côté, il y, y a des courses qui arrivent. J'ai le Tour de Burgos, le Tour de l'Ain et le Tour d'Espagne. Voilà, donc maintenant à moi de bien finir la saison.
D'accord, et ce soir donc, pourquoi pas la gagne ?
Oui, pourquoi pas la gagne ? On est tous là pour gagner, on fait du vélo pour gagner. Et voilà, après il y a des très bons coureurs comme Chavanel, Samuel Dumoulin. Donc voilà, moi je suis plus dans une optique peut-être d'entraînement, progression pour les courses qui arrivent.
Voilà. Merci Maxime. Merci.
Voilà, allez maintenant l'opinion de Johan Offredo de l'équipe FDJ.com. C'est un des organisateurs de ce critérium de Longchamp.
Et avec Johan Offredo qui est pratiquement le régional de l'étape. Johan, comment se présente donc ce premier critérium de Longchamp?
Eh ben, comme tu vois, il fait beau. Ce matin, c'était pas le cas. Il n'y a plus de critérium en Ile-de-France depuis de nombreuses années, qui plus est derrière nous. Et voilà, c'est l'occasion de faire une vraie fête populaire, de démontrer les vraies valeurs du vélo, la proximité, un sport qui va vers les gens. Et ça, c'est toujours sympa.
Ouais. Le fait d'être un peu le régional de l'étape, ça donne aussi une petite pression particulière?
Non, moi j'étais à l'initiative avec quand Eric m'en a parlé. On a tout de suite essayé d'aller convaincre Madame la maire de Longjumeau, qui a tout de suite été réceptive de l'événement. Il y a eu un gros engouement de la part du Conseil Général de l'Essonne, de la mairie de Longjumeau, de nos partenaires privés. Et voilà, on espère que c'est le début de quelque chose.
Ouais. Et derrière dernier, c'est particulier quand même.
Derrière dernier, c'est particulier. C'est ce qui fait aussi l'originalité de l'événement. Et ça va être sympa.
D'accord. La suite de la saison, c'est quoi après ce critérium?
La suite de la saison, c'est la Poule Normande déjà dimanche. Et puis après, on aura l'Arctic Race, une nouvelle course d'ASO en Norvège. Et après, on aura le Hambourg, le Poitou-Charentes, Plouet, Québec, Montréal. Voilà, il y a un sacré programme encore.
Merci Johan.
Ça marche, salut.
Ouais, tiens, Québec-Montréal, c'est ce week-end. Hein. On y était l'année dernière. À ce moment-là, on avait eu l'occasion d'assister à ce Grand Prix de Montréal. On avait même fait une émission spéciale sur le sport canadien, ce qui nous permet de faire un petit coucou à nos amis canadiens. C'est un beau spectacle. Allez, c'était le 29 juillet, ce critérium. Donc maintenant, on retrouve le vainqueur, Samuel Dumoulin de AG2R, la mondiale. C'était quelques jours donc après l'arrivée du Tour.
Allez, avec Samuel Dumoulin. Alors Samuel, comment on aborde ce critérium de Longjumeau?
Bah bien, hein, même s'il y a quand même de la fatigue du Tour de France, c'est toujours un plaisir de retrouver du public, une nouvelle épreuve, derrière dernier, original, donc on a hâte d'y être et de retrouver des sensations de vitesse au milieu des copains du peloton.
Ouais, et puis ça permet au public hein, d'admirer les champions cyclistes qu'ils ont pu donc voir sur les routes du Tour de France.
Ouais, c'est sûr que c'est une belle liaison avec le Tour qui s'est terminé dimanche à Paris. On se retrouve ici dans l'Essonne à Longjumeau. Donc voilà, tout le public qui s'est déplacé aujourd'hui va pouvoir profiter de nous. Donc c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir communier en n'ayant pas le stress de la compétition.
Et vous, après ce Tour de France, c'est facile de retrouver le quotidien?
Non, c'est pas facile. Ça change tout de suite de rythme. Il faut même physiologiquement arriver à retrouver ses habitudes et ses sensations habituelles. Donc c'est pas forcément évident, mais bon, c'était pas mon coup d'essai, donc j'ai l'habitude.
Très bien, bon, maintenant, le restant de la saison, c'est quoi pour vous?
Le gros objectif, ça va surtout être de gagner le classement final de la Coupe de France. Dès dimanche, je vais être à l'ouvrage sur les routes de la Poule Normande, puis continuer à travailler pour l'équipe, et puis des beaux objectifs, comme à l'habitude, avec le Grand Prix de Plouet, et toute fin de saison à Paris Tour.
Merci Samuel.
Merci à vous.
Voilà, merci à Samuel Dumoulin. On va maintenant entendre un de ceux qui étaient invités, un des très nombreux champions du passé qui étaient invités, à savoir Bernard Thévenet, vainqueur des Tours 75 et 77, et qui nous donne un peu son sentiment sur ce critérium, mais aussi sur le Tour de France 2016.
Avec Bernard Thévenet. Bernard, ravi d'être en spectateur sur ce premier critérium de Longjumeau.
Oui, parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de critérium en Ile-de-France. Et puis, surtout parce que c'est derrière dernier, parce que là aussi, il y a très longtemps qu'il n'y a pas eu un critérium derrière dernier. Donc, il y a deux nouveautés. C'était quelque chose à ne pas louper.
Oui, et puis c'est aussi pour le public l'occasion d'apprécier les champions qu'ils ont admirés pour certains sur le Tour de France.
Oui, bien sûr, oui, ça c'est le rôle des critériums, on va dire, de pouvoir permettre au public d'approcher d'un peu plus près les coureurs que dans le Tour de France, parce que dans le Tour de France, les coureurs sont sous pression et c'est beaucoup plus difficile de les rencontrer et surtout de les trouver aussi décontractés.
Oui, Bernard, à votre époque, il y en avait beaucoup plus, les critériums.
Ah oui, il y en avait tous les jours, même des fois deux par jour. C'était c'est une cavalcade, hein, ouais. Parce qu'à des moments, c'était loin entre deux critériums. On faisait énormément de kilomètres, il y avait énormément de fatigue, et ça durait un mois et demi jusqu'au championnat du monde. Mmh. C'est vrai que bon, c'était peut-être pas une bonne méthode, mais bon, c'était notre façon de gagner notre vie.
Bien sûr. Un petit mot sur le Tour de France, vous l'avez suivi comme suiveur, hein, donc parmi ASO. Le Tour, facilement gagné par Froome, il y avait Froome et puis les autres.
Ouais, facilement, pas si facilement que ça quand même. Hein. Mmh. Je pense que Froome a été obligé d'attaquer aussi bien en descendant Persourde qu'à Montpellier. S'il avait été sûr de gagner facilement et de pouvoir vraiment creuser l'écart en montagne, il ne serait pas cassé la tête à prendre des risques en descente ou à s'escrimer à suivre Sagan à Montpellier. Donc Froome a gagné, oui, mais pas aussi facilement qu'on ne le pense. On a l'impression qu'il est facilement parce qu'on attendait beaucoup de sa confrontation avec Contador. Elle n'a pratiquement pas eu lieu parce que Contador était un peu moins bien que les autres années. Il fait troisième quand même, hein, faut pas oublier. Mais Contador était moins attaquant que les autres années, mais ça n'a pas été une balade de santé pour Froome. Je pense qu'il a quand même des moments où il a pas vraiment été en difficulté, mais il y a des moments où il s'est fait un petit peu peur, notamment à sa chute à Saint-Gervais.
Et puis côté français, alors un jour on va y arriver, on va succéder à Bernard Hinault, dernier vainqueur français.
Pour l'instant, je pense que Bardet en prend le chemin, oui. Mm-hmm. Mais bon, il faut encore s'améliorer, il faut progresser, donc il faut encore de l'entraînement. Il faudrait aussi peut-être que son équipe se renforce un petit peu plus, si elle en a les moyens.
D'accord. Merci Bernard.
Voilà, merci à Bernard Thévenet. Maintenant, on va écouter Madame le maire de Longjumeau, Sandrine Gelot, ravie d'être la capitale du vélo le temps d'un soir.
Allez, je suis avec Madame le maire de Longjumeau, Madame Gelot. Madame Gelot, c'est une bien belle soirée pour le sport sur Longjumeau. Hein.
Oui, une belle soirée populaire avec un critérium qui revient pour la première fois en Ile-de-France. Donc c'est un vrai pari, un challenge. Et je pense que compte tenu à la fois de l'affluence et puis de la bonhomie et de la joie des coureurs, on peut maintenant considérer que c'est un événement qui est réussi.
Ouais. Est-ce que c'est facile à mettre sur pied un tel critérium?
Pardon?
Est-ce que c'est facile à mettre sur pied un tel critérium?
C'est jamais compliqué à partir du moment où on a des gens qui sont motivés, passionnés, ce qui est le cas à Longjumeau. On aime le sport, on a envie d'animer notre ville. Maintenant, c'est rendu plus compliqué quand même par les difficultés de sécurité qui nous sont imposées du fait, bien sûr, de l'état d'urgence et des difficultés, et notamment des derniers événements à Nice, qui ont fortement contrarié notre organisation en matière de sécurité.
Bon, ça va devenir un classique, ce critérium.
Bah écoutez, on verra, on va faire le bilan de cet événement dès ce soir et puis dans les semaines à venir, et puis on espère, pourquoi pas, en tous les cas il fallait relancer ce type d'événement, c'est fait, maintenant si ça tourne ailleurs, pourquoi pas, mais moi je suis très satisfaite en tous les cas que cette première ait pu avoir lieu à Longjumeau.
Alors vous avez parlé de la ville de Longjumeau comme ville sportive, le sport est très important, c'est fédérateur. Hein.
Ah mais pour moi il n'y a que le sport et le sport live qui permet à chacun de retrouver des émotions, des valeurs, un vécu, enfin cette notion de vivre ensemble, je pense que le sport c'est quand même le meilleur vecteur en tous les cas pour y arriver.
D'accord, merci en tout cas, puis bonne soirée.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, merci à Madame le maire. Allez maintenant, Romain Feuillu de l'équipe HP BTP Aubert 93 qu'on avait rencontré juste à l'arrivée de ce critérium.
Allez, avec Romain Feuillu, Romain, alors, ça s'est passé comment ce premier critérium de Longjumeau?
Ah bah c'est sympa, c'est une expérience, c'est la première fois que je faisais une course dernier, j'ai même jamais fait sur piste, donc c'est vraiment spécial, c'est une ambiance, on a l'impression de retourner un peu, je sais pas moi, quelques années en arrière, peut-être 30 ans, quand j'étais petit, il y avait encore des courses de Solex, ça n'existait tellement plus, mais voilà, et puis ce public, c'est vrai que c'est sympa, les gens sont curieux aussi de voir ça, parce que il y a les coureurs du Tour, et en plus de ça, il y a ces vieilles machines qui sont là, qui pétaradent dans Longjumeau. Donc voilà, et nous de l'intérieur c'est quand même sympa. C'est pas évident de remonter sur les routes, mais c'est à refaire.
Oui, il faut une bonne osmose entre le conducteur du dernier et le coureur. Hein.
Ouais, c'est exactement ça. Il faut s'entendre et il faut prendre ses marques. Alors peut-être que l'année prochaine on sera encore meilleur. Ouais.
Et pour vous, la suite de la saison, maintenant ça se passe comment?
La Polynormande dimanche, après demain. Et puis ensuite, quelques critériums encore, Castillon-Bataille, Marcolez, Anne-Nopalestel, Tour du Limousin, Poitou-Charentes, et puis après, Fourmis, Isberg, les Coupes de France, Paris-Bourges, Vendée, Paris-Tour.
Merci en tout cas.
Voilà, merci.
Voilà, et pour finir cette salve d'interview, ben, on va écouter l'organisateur, Eric Ramos, et ensuite, eh bien, on enchaînera sur la pub.
Éric Ramos, je pense ce soir un organisateur particulièrement ravi et satisfait.
Oui, on doit le dire, on peut le dire, oui, parce que je pense qu'on a réussi notre défi qui était d'organiser un critérium d'après Tour de France derrière Derny. Je crois qu'il y a 25 ans qu'il n'y avait pas eu un événement pareil en région parisienne. Donc on avait décidé de le mettre en place. On a réussi à avoir un très beau plateau avec des coureurs étrangers, même Davide Rebellin, un Italien de renom, qui a accepté notre invitation. Et puis des grands noms du cyclisme français comme Sylvain Chavanel, Johan Ofredo, Mika Delage, Samuel Dumoulin, bien sûr. Et voilà, donc on a eu un public fervent, on a vu des connaisseurs quand même, des gens qui ont apprécié l'organisation, des partenaires qui ont répondu présents, des élus qui sont au top. Donc franchement, je suis ravi.
Qu'est-ce qui est le plus dur à mettre sur pied pour une telle épreuve ?
Eh ben, je dirais qu'en région parisienne, c'est surtout la circulation, les problèmes de sécurité. D'autant plus que après les événements qu'on a connus ces derniers temps, ça a été très compliqué à organiser. On a même eu de réelles difficultés en fin de semaine, là, avec, je dirais, des restrictions et des règles de sécurité draconiennes mises en place par le ministère de l'Intérieur. Voilà, on a quand même assumé parce qu'il fallait, on nous a proposé et imposé, même, je dirais, 45 policiers supplémentaires. Il fallait qu'on les accepte. C'est un coup, bien évidemment, mais la sécurité a été au top. Voilà, donc je suis ravi.
Donc on va repartir l'année prochaine maintenant. Eric, on dit que ça pourrait être encore un peu plus près que de l'arrivée du Tour.
Alors je ne sais pas, il faut après convaincre les élus, hein. Il faut déjà faire un bilan de tout ça, voir avec les élus qui nous ont fait confiance si réellement ils sont intéressés pour recommencer, pour renouveler l'opération. Moi de mon côté, bien évidemment, oui, bien sûr, je suis partie prenante. Maintenant, il faut leur poser la question. On fera ça après un débriefing.
Et puis un coup de chapeau à tous les bénévoles qui ont travaillé à vos côtés aussi. Hein.
Absolument. Alors moi, j'ai une équipe d'organisation d'une trentaine de personnes qui sont au top. Hein. Franchement, on organise des cyclosportives. On est là régulièrement sur des organisations. C'est très, très bien. Voilà. Il y a aussi, surtout, et penser aux signaleurs, aux services techniques, aux gens de la ville qui nous ont, tous les services qui nous ont aidés pour organiser cet événement. C'est quand même, je peux vous dire que c'est très lourd de travail. C'est des mois de préparation. Alors voilà, c'est eux qu'il faut féliciter.
Merci Eric, en tout cas.
Merci à vous.
Merci. Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Artisan, chef d'entreprise, dirigeant de PME, Amplitude Service, récemment installé dans la vallée de Chevreuse, réalise tous vos travaux de secrétariat. Rédaction de documents, devis, factures, relance client, recouvrement. Vous souhaitez faire le point sur vos frais de structure, étudier l'opportunité de réduire vos coûts ou encore optimiser vos outils d'administration. Amplitude Service dispose des compétences nécessaires pour organiser votre gestion d'entreprise avec la possibilité d'intervention directement dans vos locaux. Spécialiste depuis plus de 15 ans dans la gestion des services administratifs et des moyens communs du second œuvre, Amplitude Service a créé des offres de services adaptées à vos besoins. Amplitude Service s'occupe aussi de vos événements d'entreprise. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 06 63 44 05 90 ou sur www.amplitude-service.fr et bénéficiez de la remise promotionnelle dans le cadre de l'ouverture de nos locaux de rue de Paris à Chevreuse. Pour vos travaux de secrétariat et d'organisation d'entreprise dans les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et le Eure-et-Loir, une seule solution, Amplitude Service.
Vous avez envie de vous investir dans une démarche citoyenne auprès de jeunes en difficulté ? Vous avez des qualités relationnelles d'écoute, mais aussi d'autorité et de patience. La protection judiciaire de la jeunesse a besoin de vous. Devenez famille d'accueil de la PJJ. Votre rôle sera d'accueillir au quotidien des mineurs et jeunes majeurs placés suite à une décision judiciaire pour une durée déterminée en fonction de vos possibilités. Dans cette mission, vous ne serez pas seul. Une équipe éducative sera là pour vous accompagner et restera joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous bénéficierez d'une indemnisation de 36 euros par jour maximum. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet du ministère de la Justice www.justice.gouv.fr, rubrique Justice des mineurs, ou contactez la Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse la plus proche de votre domicile.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà pour cette émission bien remplie et bien chargée, simplement pour vous dire que le Tour de France 2017, il sera dévoilé le 18 octobre prochain. Voilà. Écoutez, merci donc Arnaud. On parle des Jeux Olympiques la semaine prochaine. Hein. On a eu aussi d'autres grands moments forts. Hein. On en parlera avec Étienne Bonamy, puis aussi les Jeux Paralympiques qui se déroulent donc encore cette semaine et qui s'achèveront le week-end prochain. Voilà. Donc pour là, et puis je vous donnerai quand même d'autres rendez-vous. N'oubliez pas les courses à l'hippodrome de Rambouillet cet après-midi à partir de 14h. Hein. Vous avez bien noté, je suppose, les pronostics de Boris. Et puis on va remercier Victor qui a été une nouvelle fois excellent domaine maître, hein, notre ami Victor, ça sera notre technicien titulaire cette saison. Et puis restez-nous fidèles la semaine prochaine, donc les Jeux Olympiques, le tennis avec le Perret dans 15 jours, le 25 septembre, et puis le retour de Tribune Foot, premier dimanche du mois d'octobre, le 2 octobre. Bon dimanche à toutes et à tous, et puis l'actu sportive, elle est bien partie sur la radio du sport qui est RVE. Bon dimanche à toutes et à tous, salut.
Bon dimanche.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans